affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers auditeurs, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Notre émission de ce jour est consacrée à un événement peu banal qui s'est déroulé le 22 mai dernier sous la coupole. Ce jour-là, en effet, les membres de l'Académie française ont accueilli un nouveau confrère et cet accueil représentait bien, pour reprendre les mots de Frédéric Vitou, un bouleversement, une secousse, un séisme, voire une révolution. Pourquoi de tels mots? Pourquoi une telle stupéfaction? Eh bien parce que le nouvel académicien accueilli par ses confrères s'appelle Michael Edwards et que, comme son nom l'indique, il s'agit d'un sujet de la couronne britannique, un Anglais à l'Académie française, shocking pourrait-on dire. Le principal intéressé d'ailleurs en est bien conscient. S'adressant à ses confrères, il avait commencé ainsi son discours. « Mesdames, messieurs de l'Académie, en m'ouvrant la porte de votre illustre compagnie, vous accueillez en votre sein, bien pire qu'un étranger, un Anglais. » Il nous a donc semblé nécessaire d'inviter Sir Michael Edwards dans nos studios afin que nos auditeurs puissent faire plus ample connaissance avec lui et pour qu'il découvre, s'il n'en était pas encore convaincu, que si l'accession au fauteuil 31 précédemment occupé par Jean Dutour de Sir Michael Edwards est bien une petite révolution, c'est une révolution bénéfique. Sir Michael Edwards est en effet un Britannique un petit peu singulier qui présente la particularité d'être un amoureux de la langue française, de la littérature française et probablement de la France en général. Sans pour autant d'ailleurs cesser d'être totalement britannique. Il faudra qu'il nous explique cette particularité, cette double vision. Professeur au Collège de France, autre vénérable institution française, c'est aussi un poète qui nous invite à retrouver le bonheur d'être ici et à cultiver la belle vertu d'émerveillement. Des manières d'être, des regards qui sont peut-être d'ailleurs des antidotes aux doutes qui s'emparent actuellement de la société française. Voilà pourquoi nous sommes heureux, honorés, de recevoir Michael Edwards dans nos studios. Michael Edwards, bonjour.
Bonjour.
Vous avez dit lors de votre discours de réception qu'écrire l'essentiel de votre œuvre en français était pour un Britannique une forme d'extravagance. Quand cette extravagance vous a-t-elle saisie ?
Elle ne m'a pas vraiment saisie. J'ai publié mon premier livre en français, mes premiers articles en français. Et très progressivement, je me suis rendu compte que le fait d'écrire dans une langue étrangère, parce que le français, pour moi, c'était à l'origine une langue étrangère, elle ne l'est plus maintenant, c'est en quelque sorte ma langue maternelle, que le fait d'écrire dans une langue étrangère créait pour moi un nouveau moi et un nouveau monde. Et petit à petit, et je souligne le fait que cela est arrivé très très lentement, ce n'était pas un choc, petit à petit je me suis rendu compte que le fait d'écrire dans une langue étrangère me permettait de comprendre de l'intérieur ce qui m'intéressait, le verbe est faible, depuis très longtemps, c'est-à-dire l'altérité. Le fait que dans la vie, dans le monde, il y a autre chose, quelque chose d'étrange, quelque chose d'étranger. Et je le vois dans beaucoup de domaines, religieux, poétiques, artistique en général, et avec plusieurs décennies d'expérience, il me semble maintenant que le fait d'écrire en français signifie que je suis en quelque sorte de l'autre côté du seuil, si vous voyez ce que je veux dire. Non,
je m'explique. Je vais vous demander de préciser.
Oui, je m'explique. Où commencer? Il faudrait commencer très loin. Par le fait que je me suis converti au christianisme à 19 ans. Et ce n'était pas simplement le fait d'accepter une série de dogmes, de concepts sur le monde. C'était là un choc, hein, une révélation. Et je me suis dit tout de suite que dans l'évangile, la bonne nouvelle, il y avait surtout, curieusement, une sorte de dynamique qui allait de l'Éden perdu, qui demeure dans notre mémoire, qui nous inspire, mais qui est néanmoins perdu, un état de perfection. Les choses communient les unes avec les autres, les hommes les uns avec les autres, et tout avec Dieu. Ensuite, il y a un monde déchu, celui que nous habitons, et qui est misérable, comme dirait Pascal, qui est dans le malheur, la mort, le deuil, la maladie, etc. Et qu'au-delà, il n'y a pas la promesse d'un paradis tout à fait différent. Il y a très curieusement la promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Et on n'en parle pas suffisamment, me semble-t-il, parce que cela signifie que l'avenir, pour les chrétiens, il faut être chrétien évidemment pour penser ainsi, l'avenir ce n'est pas la destruction de l'univers et l'ascension des âmes pieuses, etc., vers autre chose qui serait le paradis, le ciel, etc., mais que, presque au contraire, la promesse, c'est que la terre sera refaite. Il y aura une nouvelle terre. Autrement dit, dans le monde que nous habitons actuellement, qui est évidemment absolument plein d'horreurs, nous en sommes conscients quotidiennement, dans ce monde, il y a une sorte de suggestions, une petite lueur d'une autre terre, d'une autre vie, d'une autre personne. Parce que la promesse d'une nouvelle terre s'accompagne de cette métaphore absolument éblouissante de saint Paul, 15e chapitre de la première lettre aux Corinthiens, excusez-moi, mais les protestants, les anglicans ont habitude de préciser. Lorsqu'il dit que, bon, vous me parlez de la résurrection, vous me demandez ce que c'est, pensez à une graine de blé, par exemple, que l'on sème, et qui devient un épi de blé. C'est la même chose avec le corps que nous habitons, le corps physique, disons, qui deviendra corps spirituel. Un oxymore, évidemment, comment est-ce qu'on peut être matériel et spirituel en même temps. Et cette image est absolument merveilleuse, c'est vraiment l'image d'un grand poète, finalement, parce que cela signifie que le corps sera autre, mais ce sera toujours un corps, comme la graine de blé ne change, mais sans être annulée. Et de la même façon que nous ne pourrions pas imaginer ce qu'est un épi de blé, et encore moins un champ de blé où souffle le vent, si nous n'avions que des graines de blé, ce serait impossible. De la même façon, nous ne pouvons pas vraiment imaginer ce que serait une terre renouvelée. Alors, cette idée d'une terre parfaite au début, qui était l'Éden, enfin, au moment de la création, et d'une terre renouvelée à la fin, qui n'est pas l'Éden, et qui nous dit de ne pas caresser notre nostalgie d'un état premier, mais au contraire d'aller de l'avant, cela signifie qu'il y a autre chose, et je le vois partout. Je l'ai vu très tôt dans, par exemple, la poésie. La poésie, je suis poète depuis l'âge de, je ne sais pas, 10 ans, quelque chose comme ça. Je suis depuis toujours poète. Et lorsque l'on écrit, on découvre tout de suite qu'on aimerait une éloquence parfaite, des vers superbes, une beauté infinie. Mais que cela est impossible, c'est un peu comme si on voulait l'Éden et que l'on découvrait que l'Éden est impossible. On trouve que les mots ne viennent pas, que les idées ne viennent pas, les émotions sont faibles ou enchevêtrées, etc. Autrement dit, on est dans le monde du travail, c'est la malédiction du travail précisément, mais on découvre aussi que lorsqu'on arrive à écrire, d'abord, ce que l'on écrit vient en partie d'ailleurs. Je pense que tous les poètes le disent. On n'a pas besoin d'être poète chrétien pour le savoir. Tous les poètes disent que, à certains moments, un mot vient, une phrase vient, une série de sonorités arrive, auxquelles on ne s'attendait absolument pas, et qui s'avère non pas simplement comme une série de cadeaux, mais comme exactement ce qu'il fallait. Comme s'il y avait quelque chose en soi ou en dehors de soi qui savait ce qu'il fallait faire, quelque chose en soi plus profond que la conscience, résonante, disons. Et en même temps, on découvre que lorsqu'on essaie de nommer le monde, si on le nomme poétiquement, avec les sonorités qu'il faut, avec l'apport de l'émotion humaine, de la perception humaine, la perspective de l'intelligence humaine, en quelque sorte, on recrée le monde. Le langage n'est pas là simplement pour que nous communiquions les uns avec les autres, il est là, je crois, pour nommer le monde et en le nommant, pour le changer. Autrement dit, la poésie est déjà une sorte d'indice faible, bien sûr, de cette recréation de tout.
Au commencement était le verbe, mais aujourd'hui nous pouvons continuer à agir sur la création avec les mots.
Avec les mots. Je pense que c'est pour cela que la parole nous a été donnée. Surtout la parole, moins les mots écrits que la parole. Et c'est pour cela que la poésie me semble particulièrement importante, comme le théâtre d'ailleurs, parce que même en lisant un poème, on l'entend, ou on doit l'entendre dans sa tête. On doit d'ailleurs l'articuler dans sa gorge et dans sa bouche. Il vaut encore mieux lire un poème à haute voix. Donc avec cette parole, on commence à soupçonner le possible du monde. Le possible est devenu pour moi une idée extrêmement importante. Et je dirais la même chose à la peinture. Je ne suis absolument pas peintre, mais le tableau d'un paysage change le paysage, non pas en lui-même, mais dans notre perception. Et un arbre dans un paysage est bien moins qu'un arbre réel, bien sûr, mais en un sens, il est plus que l'arbre réel, parce que l'on voit déjà, dans Balthus par exemple, dans Cézanne, on voit déjà le possible de l'arbre, l'arbre qui, en quelque sorte, se change en lui-même. J'aime beaucoup cette expression de Mallarmé, tel qu'en lui-même, enfin. Bon, l'éternité le change. L'éternité est intéressant d'ailleurs, parce qu'il est évident, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer tout de suite, que Mallarmé pensait à la religion à ce moment-là. C'est l'éternité qui change quelque chose en lui-même, Edgar Poe et le tout. Et la langue française, dès le début, m'est parue comme le signe de cette altérité. Parce que, étant très différente de l'anglais, elle lui est néanmoins semblable. Je bénis Dieu et les circonstances de mon enseignement d'avoir appris le français, et non pas, par exemple, l'allemand et l'espagnol.
Pourquoi donc ?
Parce que le français étant une langue latine, c'est une sorte de latin évolué, plus évidemment l'apport de beaucoup d'autres langues sur le plan du vocabulaire surtout, est très différent de l'anglais, qui est une langue germanique. Mais, comme tout le monde le sait, au moment de l'invasion des Normands et depuis, le vocabulaire français a envahi l'anglais. La moitié de nos mots sont, je dis « nos » en tant que britannique, je dirais « nos » en tant que français aussi. La moitié des mots de l'anglais sont d'origine française ou latine. Et comme je l'ai dit souvent, les Anglais sont bilingues de nature. Nous parlons une langue à la fois germanique et latine par son vocabulaire. Autrement dit, le français est à la fois même et autre. C'est cette idée de même et autre qui me fascine depuis très longtemps. J'ai écrit même un livre qui s'appelle, qui a cela dans le titre, Un monde même et autre. Parce que l'autre, c'est simplement autre, inimaginable, impossible, inatteignable, ou comme dit Proust, inattingible. J'aime énormément ce mot. C'est un peu plus inatteignable, n'est-ce pas ? Alors que le même et autre participe à la fois du monde que nous connaissons et du moi que nous connaissons, du je que je suis, et de cette altérité à l'horizon de notre perception et de notre désir. Ça
veut dire que cette qualité de même et autre crée une petite vibration, une petite inflexion qui ouvre sur de nouvelles perspectives davantage que si on se heurtait à ce mur, c'est cela ?
Je pense, oui. Le français est une sorte de seuil pour les Anglais, pour les Anglais qui en sont conscients, qui sont conscients de leur langue et de la profondeur et de la beauté de la langue française, bien sûr, qui ne la considèrent pas simplement comme un moyen de communication. Et le français ouvre cette perspective. Et quand j'écris en français, je vois que je suis dans un autre monde et que je suis moi-même un peu différente. Tout le monde le dit, quand on écrit dans une langue différente, on change un tout petit peu. Moi, je change beaucoup, me semble-t-il. Mais en même temps, je suis chez moi parce que, d'abord, je pratique le français depuis très longtemps, depuis l'âge de 11 ans, c'est-à-dire très longtemps. Et aussi parce qu'il y a tous les liens entre non seulement la langue française et la langue anglaise, mais l'histoire de la France et de l'Angleterre, la culture française et la culture anglaise, tous les moments où l'influence anglaise a été très forte en France, l'influence française a été très forte en Angleterre. Je me sens dans un monde qui est tout à fait familier, tout en étant, même maintenant, un peu autre.
Puisque c'est à la fois identique et différent, peut-on passer en revue les différences qui font que le passage de l'un à l'autre, oui, on pourrait y passer des jours.
Effectivement.
quelques différences fondamentales ou quelques exemples de ces différences qui font que c'est enrichissant de passer de l'un à l'autre.
Je suis toujours gêné quand on me pose cette question, parce qu'on me la pose comme vous pouvez l'imaginer très souvent, parce que je vois très bien les différences, mais je vois aussi que pour chacune des différences, il y a des exceptions. C'est comme quand on me demande, mais quelles sont les différences entre la poésie anglaise et la poésie française ? Je commence à parler de l'hétérogénéité des poèmes anglais, ensuite je pense à Baudelaire. Je commence à parler du fait que même dans un poème extrêmement sérieux, il y a dans un poème anglais très souvent une touche d'humour, une comédie, etc. Et je pense à Apollinaire. Et c'est la même chose dans l'autre sens, les poètes anglais qui se rapprochent de la poésie française. Mais pour m'aventurer et pour que les gens puissent me descendre en flammes, je dirais que la syntaxe de l'anglais nous oblige à rester dans le monde, disons, concret, et à suivre le mouvement du temps et le mouvement du corps et de la conscience dans le réel. La syntaxe anglaise est progressive, tout le monde le sait, c'est pas moi qui ai inventé l'idée. La syntaxe est progressive. Et cela se voit non seulement dans les phrases que nous utilisons lorsque nous parlons anglais, mais aussi dans la façon de faire des poètes anglais. Et cela explique beaucoup aussi la façon de faire de Shakespeare par rapport à Racine. Alors que la syntaxe du français ne perd pas contact avec le monde réel. Évidemment, les Français pensent que c'est le cas. Les Anglais pensent que les Français sont des gens qui vivent dans
un monde éthéré.
Dans un monde abstrait. Tout à fait.
Peuplé d'idées, de concepts, alors.
Voilà. Tout à fait détaché du réel. Mais en fait, la syntaxe française est extrêmement subtile, et je l'adore. Si j'écris en français, ce n'est pas par contrainte, c'est parce que j'ai voulu le faire, parce que j'admire, je m'émerveille devant la beauté subtile de la langue française. Mais la syntaxe française, tout en nommant le monde, a le pouvoir de s'élever un tout petit peu au-dessus du monde. Quand on construit une phrase en français, on a tendance à voir tout ce que nous on va dire à l'avance et analyser ce que l'on va dire pour l'exprimer de la meilleure façon possible. Et je ne vais pas donner d'exemple parce que c'est l'exemple que je donne constamment et puis
s'il vous plaît. Oui.
Vous permettez ?
Oui.
Oui. Mais dites aux auditeurs de ne pas être fâchés s'ils l'ont déjà entendu. C'est un exemple que je n'ai pas inventé. C'est quelqu'un qui va nager et qui s'éloigne de la rive et qui ensuite revient. Tout simple. Le français dit, tout à fait naturellement, pour parler de son retour, il revient à la rive à la nage. Quoi dire d'autre ? On pourrait dire en nageant, mais enfin à la nage semble normal. Alors que l'anglais dit « he swims back to the shore ». Et c'est entièrement différent. Nous sommes dans deux mondes différents. Parce que le français se dit « qu'est-ce qu'il fait ?» au fond. Idéalement, dans le monde de l'idée, il revient à la rive. C'est ça qu'il fait. L'anglais se dit, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il nage. Vous voyez ? Il nage. Et le français dit qu'il revient à la rive à la nage, qui est une expression absolument merveilleuse quand on y pense. Surtout pour quelqu'un qui n'est pas né français. Parce que on voit le fait de nager, sans vraiment voir les mouvements de la nage. C'est une expression adverbiale. Il vient nagément, pour ainsi dire, à la nage. Alors que l'anglais, non seulement dit que le bonhomme nage, mais il suit les mouvements du nageur. He swims back to the shore. Vous voyez ce que je veux dire. Et il me semble que c'est une grande différence entre le français, qu'il ne faut pas juger. Il ne faut pas en France dire que les Français, les Anglais, se perdent dans le concret, dans l'empirisme, etc. Ne savent pas s'élever un peu au-dessus des choses pour analyser ce qui se passe. Et il ne faut pas non plus, comme je dis, que les Anglais supposent que les Français perdent le contact avec le monde réel. Ce sont deux façons tout à fait différentes, complémentaires, de se mettre en contact avec le réel.
Et qui ont bien sûr un impact bien au-delà de la littérature. Vous pensez que ça structure évidemment la manière d'être en général des différents peuples.
Oui, et c'est pour cela, comme je le dis très souvent, qu'il faut absolument que les Français continuent de réfléchir, de penser en français. Au moment où l'anglais envahit la langue française, il faut, me semble-t-il, séparer deux problèmes. Il y a le problème de l'universalité de la langue anglaise qui énerve les Français. Évidemment, on comprend pourquoi, c'est normal, mais je ne pense pas qu'on puisse lutter contre cette universalité. Il faut faire simplement ce que font beaucoup de Français, l'Institut français, par exemple. Il faut soutenir l'effort de la francophonie, il faut soutenir tous les peuples dans le monde entier qui parlent français comme la langue maternelle ou comme une deuxième langue apprise très tôt. Mais le deuxième problème, celui de l'invasion du français quotidien, du français de France, ou du français Québec par l'anglais, doit, me semble-t-il, inciter les Français à se dire que cette invasion est très dangereuse, pas simplement pour le français, mais il est vrai que un français dégénéré ne serait plus le vrai français, mais pour la pensée française, pour la conscience française, il faut que les philosophes réfléchissent en français. Il faut que les historiens pensent en français. Et je le dis depuis longtemps, sans être sûr de mon fait, il faut aussi que les scientifiques pensent en français. Et je suis très heureux de voir que les scientifiques le disent aussi. On aurait pu penser qu'en science, où il s'agit d'étudier des théories ou des faits, que la langue n'était pas très importante. Mais il paraît que c'est au contraire. Et j'ai découvert assez récemment que les mathématiciens pensent autant. Les mathématiciens français voient qu'il faut qu'ils continuent de penser en tant que français.
Parce que même un problème mathématique, on l'aborde avec un cerveau modelé, une façon d'appréhender les choses qui est modelée par la langue.
Et exactement, avec un français, avec un cerveau français. Et je suis absolument ignare en la matière, mais il paraît que la mathématique française diffère de la mathématique anglaise, à cause précisément de cette conscience qui la conçoit.
Ça me surprend beaucoup aussi, bien sûr. Toutefois, vous qui maîtrisez aussi bien l'anglais le français. Dans quelle langue pensez-vous ? Est-ce que cette façon de passer d'une langue à l'autre, vous parvenez à éteindre l'une, brancher l'autre ? C'est concomitant ? Vous voyez la richesse qui naît d'un choc, d'une fusion, d'une friction à chaque fois que vous parlez ou vous pensez, ou c'est successif ?
Cela dépend. Maintenant, je pense en français parce que nous parlons en français. Quand j'écris en français, quand j'écris de la prose, en français, j'écris en ce moment sur Shakespeare et Verdi, donc j'ai aussi l'italien à l'esprit. Quand j'écris en prose en français, je pense en français. Quand j'écris des poèmes en français, je pense évidemment en français. Mais il y a toujours un moment où je me dis que un apport de l'anglais serait peut-être utile. Vous voyez, il y a toujours des moments, non seulement quand j'écris des poèmes, mais quand je réfléchis en général, quand je suis dans mon bureau en train de penser, dans le salon, n'importe où, dans les toilettes. Il y a souvent un moment où je pense précisément aux différences entre les deux langues et je cherche à penser différemment, à voir différemment. Et quand j'écris un poème en français, je trouve que spontanément, il y a des touches anglaises qui arrivent. Pas forcément des mots anglais, bien que de temps en temps, j'inclus un mot anglais délibérément parce que c'est le seul mot qui convienne. Je pense qu'on peut enrichir un poème. Je ne dis pas que ces mots-là entreraient dans le français courant, mais on peut enrichir un poème avec des mots qui sont les mots justes, les mots vrais, et qui n'existent pas en français. Je m'appelle maintenant, puisque vous m'y faites penser, un poème où j'ai utilisé le mot « unearthly », qui est très beau. L'earth, c'est la terre. Unearthly, c'est littéralement non terrestre, mais ça n'a rien à voir avec le cosmos. C'est quelque chose qui est uncanny, qui est d'une inquiétante étrangeté. Voyez, mais unearthly dit cela.
Et vous l'avez choisi pour sa sonorité ou parce qu'il était porteur d'autre chose ?
En partie pour la sonorité, bien sûr. Enfin, non. Le mot m'est venu et je me suis dit. C'est parfait, mais est-ce que les sonorités vont ? Et c'est à ce moment-là que j'ai écouté tout ce qu'il y avait autour du mot et j'ai vu que oui, effectivement, ça va. Même avec le.
C'est vrai que la signification et la charge du mot passent avant la sonorité que vous ne vérifiez que dans un second temps.
Dans ce cas-là, oui. En écrivant un poème, c'est l'inverse, bien sûr. C'est ou l'inverse ou.
Il y a des exceptions.
Les deux choses en même temps, oui. Non, quand on écrit un poème, on n'est pas dans le mode concept, le mode idée, signification, etc.
Ah, mais quand on est français, si.
Comment ?
Quand on est français, si. Non, je plaisante. On est dans le mode idée.
Non, mais même les Français qui écrivent des poèmes savent que les sonorités et les significations doivent œuvrer ensemble. D'ailleurs, quand j'écris un poème, et je pense que c'est vrai pour beaucoup de poètes, ce n'est pas la signification qui compte. Ce sont les rapports entre les mots, ce sont les mémoires qui sont les mémoires des mots, parce que chaque mot a une mémoire et est habité de beaucoup de souvenirs. Ce sont les émotions qui travaillent les unes avec les autres, etc. Et ce sont surtout les sonorités, les rythmes. S'il n'y a pas tout cela, on a simplement une série d'idées qui s'enchaînent, et ce n'est pas un poème.
Dans l'un de vos ouvrages, vous êtes livré à l'exercice de traduction de vos propres poèmes dans les deux langues. C'était un exercice, quelque chose de ludique, la volonté de démontrer quelque chose de plus profond.
Ce n'était pas ludique du tout, non. Et ce n'était pas un exercice. Je me suis dit que, ayant écrit un recueil en particulier en anglais, j'aimerais savoir comment ces poèmes seraient si je les avais écrits en français. Je ne voulais pas traduire. Et au début, c'était une expérimentation, parce que je ne savais pas quel en serait le résultat. J'aurais pu me planter, pour le dire de façon élégante. Et à chaque fois, j'essayais de me remettre dans l'état d'esprit et l'état de corps, si je puis dire, qui avait donné naissance au poème anglais, et de revoir toute cette expérience en tant que français. Et souvent, le poème français qui en a résulté ne diffère pas énormément de l'anglais, sauf qu'il y a des questions de syntaxe et évidemment de vocabulaire qui sont tout à fait différentes. Mais souvent, le poème français est différent du poème anglais, parce que je me suis rendu compte que je n'aurais pas écrit comme ça. Si j'avais écrit le poème en français, j'aurais écrit comme ça. Et le poème français diffère. Quelquefois, d'ailleurs, un autre phénomène, enfin, qui m'intéresse. Quelquefois, je me suis rendu compte que, en me remettant dans l'esprit du poème, j'avais d'autres idées, tout simplement. Et je les ai écrites, non pas en réécrivant le poème anglais, mais en écrivant second poème en français. Dans deux ou trois cas, il est vrai que j'ai changé un peu le poème anglais, parce que je me suis dit que je le voyais mieux avec un certain recul.
Avec le recul, tu me donnes une autre langue.
Oui. Oui. Et puis, depuis, je me suis rendu compte que, de temps en temps, il est tentant et il est intéressant d'écrire un poème bilingue où je regarde le monde avec des yeux différents et je fais cette espèce de jeu de yo-yo entre l'anglais et le français. Je me dis, qu'est-ce que je vois en tant qu'anglais? Qu'est-ce que je ressens devant ce qu'il y a devant moi? Et j'écris. Ensuite, je me dis, mais maintenant je suis français, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? C'est un peu différent. Je vois d'autres choses. Et j'écris en français. Et j'ai un poème où j'alterne, pas mécaniquement, mais de façon un peu plus subtile, entre l'anglais et le français. Et je pense que ça marche, parce que...
Et donc, c'est ce qui permet d'avoir une vision plus panoptique, ou de mieux cerner les choses, ou au contraire, est-ce que ça ne peut pas mener à une forme de sentiment de contingence, puisque finalement, les objets, selon qu'elle les regarde d'une rive ou de l'autre, sont différents?
Oui, ou plutôt non. non, je crois que... Un sceptique dirait, évidemment, que si l'anglais produit un monde et que le français produit un autre monde, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de réel. Enfin, c'est la philosophie des années 60. Et que nous sommes donc dans une impasse, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de monde réel, soyons moroses, etc., et défaitistes. Mais un optimiste dirait, je crois, que... il y a un réel. Les Français et les Anglais, s'ils voient le monde différemment, partagent néanmoins un monde. Hein. Lorsque, en Bourgogne, je bois un vin de Bourgogne avec mes voisins bourguignons, nous buvons le même vin et nous nous trouvons dans la même communion de plaisir. Et de santé, parce que le vin de Bourgogne est très bon pour la santé. Et pour moi, le fait qu'il y a le monde vu par les Anglais, le monde vu par les Français, le monde vu par les Chinois, par les Japonais, par les Finlandais, signifie que le monde est pluriel, que le monde est, tout en étant un, est multiple. C'est d'ailleurs une bonne définition de la poésie qu'a donnée Coleridge. Le multiple devient un sans cesser d'être multiple. Et c'est une pensée très anglaise, d'ailleurs.
Pourquoi ?
Je le dis en souriant.
Pourquoi ?
Ah, parce que c'est... peut-être que je me trompe, mais l'idée m'est venue à l'esprit en parlant. Et en souriant, d'ailleurs, je le dis pour les auditeurs... parce que le multiple, pour les Anglais, est extrêmement important quand on pense à l'exubérance de la poésie anglaise. Évidemment, maintenant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mais on pourrait
Il y a des exceptions.
On pourrait penser à l'exubérance de Rabelais. L'exubérance, mais en même temps, toute cette exubérance, tout ce qui ressemble à l'anarchie, dans une pièce de Shakespeare, est néanmoins contrôlée par une unité extrêmement difficile à créer, je suppose, même si on est Shakespeare, extrêmement difficile à saisir si on est un simple mortel. Mais qui est là, j'en suis convaincu. Mais nous ne parlions pas de cela. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte.
Nous ne parlions pas de cela, mais nous sommes en plein dans le sujet de notre émission.
Bon, très bien.
et notamment, ça me pousse à en venir à ce dont nous parlions avant d'entrer dans le studio, c'est-à-dire la façon dont se vit l'identité. Le sentiment un peu général que la France vit aujourd'hui une crise d'identité. Est-ce qu'on ne peut pas rapprocher cette crise d'identité de ce que vous venez de démontrer ? Je m'explique. Lorsque on a une identité qui contient la pluralité, qui est dans l'exubérance, mais qui parvient malgré tout à maintenir tout cela ensemble pour en faire une identité précisément, n'est-on pas mieux armé ou plus à l'aise dans un monde où justement le pluriel explose que lorsque nous sommes dans une tradition où l'universalité est plus cadrée, plus assise? Vaste question, mais comme je me la pose chaque jour, je me permets de vous la poser à votre tour.
Oui, c'est effectivement une vaste question, mais absolument importante, je suis d'accord avec vous. D'après la façon dont je vois les choses, où il me semble que la pluralité des perspectives que nous avons sur le monde enrichit le monde, et ne le trouble pas, ne devrait pas nous troubler, et où cette multitude de perspectives enrichissante est aussi une sorte d'ouverture sur l'altérité. Pour moi, c'est une façon de dire que le monde n'est pas fini. Le monde n'est pas fini. Il y a une multiplicité de perspectives que nous pouvons avoir sur le monde, simplement par la langue que nous parlons, par la conscience que cette langue a en partie créée, et qui a créé cette langue. Cette pluralité signifie que le monde peut s'ouvrir à autre chose et va vers sa recréation. Évidemment, il faut penser en chrétien pour avoir cette certitude et cet optimisme. Mais étant donné que je pense en général dans ces termes-là, il me semble que la mondialisation a créé une universalité fausse. Nous sommes, me semble-t-il, à la fois les gens du terroir et des participants au genre humain. Alors, le terroir, il est vrai, change constamment. Et les antinationalistes disent que la nation n'existe que depuis peut-être le 19e siècle, peut-être le 16e siècle. Tout le monde diffère quant à son origine, mais de toute façon, la nation est très moderne. S'ils ont raison, et je n'en sais rien en fait, mais s'ils ont raison, cela signifie simplement que la façon dont les gens se sont vus dans leur environnement immédiat a évolué. Et il se peut que pendant longtemps, c'était le village qui était l'horizon, l'identité amplifiée de l'individu, de la famille. Il y a aussi la cité antique qui a été cette amplification de l'identité. Maintenant, me semble-t-il, nous sommes dans des nations où il me semble normal et pas du tout agressif et, régressif de penser qu'on est anglais, qu'on est français, qu'on est italien, qu'on est espagnol. Et pour moi, l'idéal serait que l'on soit à la fois très ancré dans le réel de son espace vital, pour ainsi dire, que l'on soit vraiment français et que l'on soit ouvert à la totalité de l'humanité. Mais ça, c'est un idéal et c'est très différent non seulement de la mondialisation, mais aussi de l'Europe telle qu'elle se construit en ce moment, enfin telle que beaucoup de personnes voudraient qu'elle se construise. Et je pense qu'en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays, mais le problème est peut-être plus exacerbé en France, je ne sais pas en fait, je ne connais pas suffisamment les autres pays, mais en France, la perte d'une sorte de sensibilité française, la perte de l'orgueil d'être français, fait que, pour le dire de façon triviale, on nage. Curieusement, mon prédécesseur à l'Académie, Jean Dutour, était très conscient de ce qu'il appelait cette déchéance. C'est pas moi qui utilise ce mot. Et il était celui qui était le plus férocement opposé à ce que les Anglais, les Français perdent leur orgueil, perdent leur fierté d'être français. Et je suis d'accord avec lui. L'expérience des guerres mondiales a montré à tout le monde que le nationalisme exacerbé, c'est-à-dire le nationalisme qui veut conquérir...
Ce sont des nationalismes d'État, de surcroît.
Oui, oui.
Ça recoupe davantage, oui, je dirais, la notion de souveraineté que celle d'identité.
Voilà. Il y a l'identité nationale où on est fier d'être français, et il y a l'orgueil d'être français et de vouloir imposer l'universalité du français et de la France et de ses valeurs à d'autres. ce n'est pas le problème de la France, en fait, ça a été le problème d'autres nations. Mais ces guerres mondiales nous ont sensibilisés, évidemment, au danger du nationalisme, et nous a un peu fait perdre le sens que, oui, mais l'identité est absolument essentielle. Il faut que l'on habite son identité propre, tout en ayant des doutes peut-être sur la valeur de sa personne, mais ça c'est autre chose. Il faut habiter son identité propre et il faut avoir autour de soi, par les tentacules de la conscience, pour ainsi dire, d'autres identités. Mais malheureusement, toutes ces identités sont attaquées. La famille, par exemple, qui peut parler de la famille comme un centre d'identité maintenant, alors que tout le monde préfère l'attaquer. La famille, le village, la ville, etc. Et puis la nation. Quand je regarde par la fenêtre, je vois la France, vous voyez ? Je vois la France influencée par d'autres nations, ça c'est normal, et derrière c'est enrichissant, c'est bien de ne pas être dans son petit précaré, mais je vois la France.
Dans la doxa contemporaine, le sentiment qu'on a tendance à opposer l'universalisme et l'identité particulière. Mmh. Dans votre œuvre et la façon dont vous abordez le monde, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le bonheur d'être ici ». Vous insistez sur la capacité à s'émerveiller des choses que l'on voit, que l'on touche. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée contraire ? C'est-à-dire que finalement, l'accès à l'essentiel, l'accès à l'universel, se fait précisément par des expériences sensibles, particulières et situées.
Vous me faites plaisir en parlant ainsi, parce que vous faites écho à l'empirisme anglais.
Je l'ignorais.
non, mais en France, on dit toujours que l'empirisme britannique signifie que les Britanniques, quand ils pensent à quelque chose, s'adressent uniquement au concret, aux petits exemples du réel qu'ils ont autour d'eux, etc., ne s'élèvent pas dans le domaine des idées. Alors que l'empirisme britannique, c'est précisément ce que vous venez de décrire, en quelque sorte. C'est le désir d'accéder au plus haut niveau de l'intelligence, de l'intellect, de l'abstraction, par la voie du réel le plus concret, et d'atteindre cette abstraction sans perdre le concret, et de rester dans le concret sans perdre l'abstraction. C'est exactement la même chose que l'unité et la multiplicité. Oui, enfin, j'abonde dans votre sens.
Et dans votre démarche de poète, c'est pas aussi la même démarche, atteindre ces vérités supérieures à travers des choses sensibles et incarnées, finalement ?
Absolument, absolument. Si j'avais osé le dire, j'aurais dit que la poésie anglaise, par rapport à la poésie, par contraste avec la poésie française, part toujours de quelque chose de très précis, pour ensuite aller on ne sait où. On passe d'une puce à Aristote à Dieu. Je dis que je n'ai pas osé le dire parce que tout de suite je pense à des poètes français qui ont fait exactement la même chose. Mais c'est quand même une façon anglaise de faire, étant donné que cela se trouve partout. Voyez, il n'y a pas simplement des exemples. C'est vraiment la façon de faire de la poésie anglaise. Et que j'approuve d'ailleurs, même quand j'essaie d'être le plus français possible, je vois que cette façon de partir de là où on est pour aller Dieu sait où, le plus loin possible, sans perdre là où on est, que c'est une sorte de sagesse. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cela que les poètes français, j'y pense tout d'un coup, les poètes français que j'aime par-dessus tous, sont Villon, Baudelaire, Apollinaire, voyez. Mon rapport avec Racine est différent. Racine m'a absolument ébloui quand je faisais des études de français à Cambridge. Et il habite ma conscience, en quelque sorte. Racine est, est une référence majeure, et je suppose qu'il le sera toujours. Mais Racine, c'est autre chose. Racine, c'est vraiment l'essence de l'altérité de la poésie française et du théâtre français et du français.
En contrepoint.
Oui.
Au monde que vous habitiez avant.
Oui, voilà. Voilà.
Ce n'est pas un pont. Ce n'est pas un pont. C'est ce qui se trouve sur l'autre rive.
Ce n'est pas un pont, non. C'est vrai. Alors que quand je lis Baudelaire, je me réjouis de... Même à partir du premier vers, du premier poème des Fleurs du Mal au lecteur, on est dans un monde où les Anglais se sentent tout à fait chez eux. Un poème extrêmement sérieux, mais avec des pointes quand même, et un poème qui s'élève vers l'ennui, qui est un concept, disons, philosophique, vers Satan, mais qui est en même temps habité par, non seulement par des choses tout à fait réelles, mais par une sorte d'ironie qui juxtapose des choses réelles sérieuses avec des choses réelles triviales. Et ça, c'est absolument anglais.
Oui, on croirait vous entendre parler de Shakespeare.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je ne voudrais pas que l'on pense que je dis que Baudelaire est un très grand poète parce qu'il est presque anglais. Il est tout à fait français, évidemment. On pourrait citer des poèmes français, des poèmes de Baudelaire, où l'on voit la francité de son écriture. Oui, Shakespeare, c'est absolument cela. Shakespeare baigne dans le réel le plus concret. Il mélange le trivial et le sérieux, comme tout le monde le sait d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai découvert. Mais je m'en émerveille de plus en plus, parce qu'il me semble que ce qu'il y a chez Shakespeare, c'est cette intelligence tout à fait inimaginable qui lui permet de naviguer absolument partout, avec une sorte de vitesse d'ordinateur. Je ne compare pas son intelligence à un ordinateur, hein, c'est une pensée accessoire, et qui lui permet de voir un infini de choses, mais à l'intérieur d'un tout, et d'un tout qui a un centre. Et non pas un centre conceptuel, une sorte de diagramme du réel et de la vie, mais au contraire, une dynamique qui part d'une situation, qui passe par d'autres situations et qui arrive à une situation finale qui est tout à fait différente et beaucoup plus émerveillante. Beaucoup plus optimiste.
Une sorte de foisonnement biologique qui conserverait son ADN.
Peut-être, oui. Oui, mais j'ai découvert, même en faisant mes études à Cambridge, que Shakespeare, la dynamique des ouvrages de Shakespeare, c'est précisément la dynamique dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin au début, à propos du christianisme. Que ces comédies commencent dans un bonheur ordinaire, mais un bonheur quand même. Il ne faut pas diminuer l'importance du bonheur. Commence dans un bonheur, entre dans le malheur, même dans les comédies, il y a... au moins un mort, et il y a plusieurs possibilités de mort. En fait, c'est une morte. Pour arriver à la fin, dans un monde différent, non pas de bonheur, mais de joie. D'une joie qui est aussi un émerveillement. Le monde s'ouvre à la fin. Comme d'ailleurs dans les tragédies. Il est plus difficile de le voir dans les tragédies parce que, d'abord, les situations sont vraiment malheureuses et il y a beaucoup de morts. Mais deuxièmement, à cause de la façon dont on parle généralement de la tragédie, en disant que la tragédie est tragique et que la tragédie, les tragédies se terminent mal. Intéressant, entre parenthèses, la façon dont certains adjectifs donnent un sens faux au substantif. Tragique, tragédie, prosaïque, prose. C'est curieux. Alors que l'adjectif poétique est tout à fait bien. Pas péjoratif du tout. L'adjectif poétique donne un très bon sens de l'importance de la poésie. Et même dans les tragédies de Shakespeare, me semble-t-il, mais les gens ne sont pas d'accord, on passe d'une sorte d'éblouissement devant la grandeur d'un monde au début, par tout le malheur que l'on sait, pour à la fin arriver néanmoins à au moins des lueurs d'espoir, et très souvent à une vraie lumière, quelque chose d'au-delà de cette chute, de cette misère.
Donc on disait regarder Shakespeare avec comme une liturgie, quelque chose qui célébration.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Et il est vrai qu'il ne faut pas que je limite Shakespeare en faisant de lui quelqu'un qui voit exactement ce que j'ai vu et qui le voit mieux, voyez. Comme j'ai dit dans une lettre à Shakespeare que j'ai publiée récemment, il ne faut pas que je voie en Shakespeare un Edwards à la puissance X. Non, mais ce que je dis est très sérieux, parce que nous avons tous tendance à tout voir.
À notre aune.
Oui, à partir de notre sensibilité, de notre vision du monde, bien sûr. Mais, et il est vrai que dans Shakespeare, il ne faut pas voir une simple liturgie, il faut être pris par le mouvement de ces pièces. Parce qu'il n'est pas dans le monde des diagrammes et des concepts, il est dans le monde du mouvement, les rapports des personnages avec eux-mêmes, les uns avec les autres, le rapport des personnages avec ce qui les entoure, souvent l'État, leur famille, etc. Et puis le mouvement vers ce que la fable qui est racontée par la tragédie va enfin découvrir et révéler.
Vous avez écrit sur un autre monstre sacré, français celui-ci, Molière. Est-ce que finalement, la façon dont Molière s'empare aussi des drames qui agitent l'humanité, cette façon à la fois pleine de vitalité, de santé, de rire, de distance, de comédie, n'est pas ce que nous devrions peut-être retrouver en France aujourd'hui. Cette forme de santé, de distance, de capacité à relativiser les malheurs ou à les transfigurer avec un certain sens de la gouaille, de la farce, mais aussi de la morale.
Oui, je pense que vous avez absolument raison. La comparaison entre Shakespeare et Molière, c'est très intéressante. Quelqu'un a écrit un livre, Shakespeare et Molière, mais il faut revenir là-dessus. Parce que quand vous avez parlé de Molière, de façon très bien d'ailleurs, si je puis vous le dire, j'avais l'impression que vous pensiez en même temps à Shakespeare.
Exact.
Oui. Oui, Molière me semble absolument formidable dans les deux sens du mot, le sens propre et le sens populaire, familier, parce que comme Shakespeare, il voit tout. Il y a la satire, comme il y a de la satire chez Shakespeare, mais il a des cibles nombreuses. Mais dans la satire de Molière, il y a toujours une sorte de fond de bonté, de bienveillance. Je pense qu'il rachète en quelque sorte la satire par tout un, pour toute une série de moyens dont je parle dans mon livre. Et autrement dit, même le fait de critiquer, et l'on sait qu'il faut critiquer dans le monde où nous sommes, on ne peut pas être optimiste dans le sens de bêta. Oui. Il faut critiquer, il faut qu'il y ait la satire surgit du monde tel qu'il est. D'ailleurs, il y a beaucoup de satire dans la Bible. Hein. Le christianisme est plein de satire. Ésaïe est un des grands satiristes. Il faut qu'il y ait de la satire, mais en même temps, si la satire est simplement mordante, si elle apporte la mort à ce qu'elle critique, elle joue le jeu d'un monde malheureux. Et Molière semble l'avoir vu. Il ne se l'est peut-être pas expliqué comme je viens de le faire, parce que c'était un créateur. Il semble l'avoir vu, et il rachète en quelque sorte la satire. Et puis la comédie de Molière, quand vous dites prend en main tout ce qui ne va pas dans l'individu et dans la société de son temps, et qui est la nôtre, il prend tout. Au lieu de se cloisonner dans des sujets éminemment comiques et qui n'offensent personne, etc., il s'empare de tout et il essaie d'aller au-delà de ce qu'il trouve. Je ne sais pas combien de manières, dans pièce après pièce, il cherche, me semble-t-il, en quelque sorte la sortie. Et il la trouve. Et comme vous, j'aimerais bien que l'on médite l'exemple de Molière et que l'on revienne à cette idée de la comédie qui fait du bien et du rire qui fait du bien.
Oui, on a le sentiment d'un rire rédempteur, plutôt standard, en vous écoutant que l'idée me vient. D'un rire rédempteur plutôt que d'un ricanement diabolique.
Voilà.
Pour utiliser le mot.
Oui, oui. Et il est curieux que dans la tradition des essais sur le rire, il y a toute une tradition où le rire est au fond diabolique. C'est la tradition de Hobbes en Angleterre, de Baudelaire, dans De l'essence du rire, de Bergson aussi. Baudelaire dit explicitement que le rire est satanique. Mais il y a aussi une tradition qui remonte d'ailleurs à Aristote, mais il y a aussi une tradition où l'on réfléchit sur la comédie de façon, disons, positive, j'aime pas tellement le mot, c'est la tradition de Fielding, de Dickens, les écrivains anglais me viennent plus facilement à l'esprit quand je pense à ce genre de comédie salutaire, disons, qui existe évidemment aussi en France. Et je pense que lorsqu'on réfléchit au rire à l'heure actuelle, on est à même de, non pas de sortir de tous nos problèmes, évidemment, parce que bon, c'est pas le rire qui va résoudre le problème du chômage, mais on est à même de mieux comprendre le monde et son possible. Il y a un rire en particulier dont j'ai parlé souvent, qui me semble absolument miraculeux. C'est le rire de Sarah dans l'Ancien Testament, la femme d'Abraham. C'est un moment où Dieu dit à Abraham, tu vas avoir un fils et tu vas être le père d'une descendance innombrable, aussi innombrable que la sable sur les plages et les étoiles dans le ciel. Et Abraham rit. Et c'est un rire de désespoir, parce qu'il voit qu'il a 100 ans ou quelque chose comme cela, et que cette promesse-là est vraiment un peu ridicule. Et Sarah, plus tard, entend la même promesse et elle rit. Et encore une fois, c'est un rire moqueur. C'est le rire moqueur que si vous me permettez de le dire, les Français voient d'abord, très souvent, quand ils pensent au rire, on rit de quelque chose, on rit de quelqu'un. Je ne dis pas que ce soit un trait des Français, mais j'ai remarqué que, peut-être moins, en fait, en parlant à des Français, qu'en lisant ce que disent les Français qui parlent du rire et de la comédie, etc., j'ai l'impression qu'il y a cette idée que le rire est moqueur. Mais ensuite, puisque c'est Dieu qui a parlé, Abraham et Sarah a 95 ans, quelque chose comme ça, elle peut absolument pas avoir d'enfant, mais ils ont un enfant, par miracle, évidemment. Ils appellent l'enfant Isaac, ce qui signifie rire. Et Sarah dit, Dieu m'a fait rire. Tous ceux qui entendront la nouvelle riront avec moi. Autrement dit, elle aussi, elle rachète le rire. Et c'est un rire d'émerveillement. Elle voit que quelque chose qui ne pouvait pas se produire s'est produit. Et sa réaction, ce n'est pas la réaction pieuse, merci mon Dieu, etc. C'est de rire. Et je trouve ça formidable. Elle rit et elle dit, ceux qui m'entendront riront avec moi. C'est un rire qui se propage, comme à la fin des comédies de Shakespeare. Il y a une sorte de communauté qui se fait autour de l'émerveillement des personnages principaux.
C'est effectivement très joli. Un rire fertile et fécond, c'est effectivement ce qu'on peut souhaiter finalement à l'humanité, au-delà même des petits problèmes contingents que j'évoquais tout à l'heure.
Oui, c'est un peu lointain, mais oui.
En tout cas, c'est un merveilleux programme que nous avons partagé avec vous. Rire, émerveillement, bonheur d'être ici. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose avant la conclusion de cette émission.
Non, sauf merci beaucoup de m'avoir accueilli si gentiment.
Merci à vous d'être venu et je propose à nos auditeurs de poursuivre cette réflexion et ce programme de rire, je répète, de rire, d'émerveillement, de santé et de bonheur retrouvé, d'être dans le monde mais sans être du monde, probablement, c'est une des vertus de la poésie certainement, en se procurant et en se plongeant dans les ouvrages de Michael Edwards qui seront bien sûr recensés sur notre site internet. Merci de votre fidélité et encore merci à vous, Sir Michael Edwards.
Je vous en prie. Thank you.